Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous découvrir enfin en chair et en os. Je ne sais pas si vous avez entendu la dernière fois la présentation de ma vie, brève. Et si vous avez entendu, très bien. Je dois impérativement commencer mes propos par vous saluer de la part du Père Xavier, sinon je ne serai incorrect et impoli. Sachez qu'il fait plus que survivre à Pontivy, que son exil se passe très bien. Qu'il fait au moins un curé heureux. Moi, je suis très heureux de l'avoir comme vicaire. Nous avons une équipe très jeune et cela se passe très bien. Donc, content d'avoir récupéré un élément aussi bon. Et il pense bien à vous et il prie bien pour vous, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais qu'il va souvent un peu Hermel, mais je sais aussi qu'il pense à la fécondité de son ministère qu'il ne voit pas, mais qu'il a offert au Seigneur. Aujourd'hui, à la suite d'un premier propos sur Origène qui consacrait un peu la pensée initiale des pères de l'Église et ce que sont les pères de l'Église, notamment la pensée de l'Orient, avec notamment la langue grecque, nous nous tournons aujourd'hui vers l'Occident, mais un Occident un peu à part, celui de l'Afrique, avec Saint Augustin. Saint Augustin, pour moi, mais comme pour beaucoup, c'est d'abord l'un des plus grands penseurs de l'Occident latin, de l'Antiquité, qui, on verra, a une fécondité exceptionnelle jusqu'à nous. Voici le plus grand de tous les pères de l'Église latine, Saint Augustin, homme de passion et de foi, de profonde intelligence et d'un zèle pastoral infatigable. Ce grand saint et docteur de l'Église est largement connu, au moins de renom, parce qu'il a laissé une empreinte profonde sur la vie culturelle de l'Occident et du monde entier. Saint Augustin, en raison de sa singulière importance, eut un impact considérable et l'on pourrait dire, d'une part, que toutes les voies de la littérature chrétienne mènent à Hippone, aujourd'hui Annaba sur la côte de l'Algérie, le lieu où il fut évêque, et d'autre part, que de cette cité de l'Afrique romaine dont Augustin était évêque de 395 à 430, date de sa mort, rayonnent de nombreuses autres routes du christianisme ultérieur, comme de la culture occidentale elle-même. Je m'arrête là-dessus et je reviens là-dessus, je vais revenir sur ses dates de naissance, sur sa date de mort, sur sa date de conversion, sur la date de son baptême. Allons d'abord voir où est-ce qu'il a vécu. Pleu Hermel, c'est pas mal aujourd'hui avec le soleil, mais Annaba, aujourd'hui en Algérie, Hippone à l'époque, H-I-2-P-O-N-E, c'était pas mal non plus. Cette vision un peu idyllique des vestiges romains d'Hippone et notamment la basilique Saint-Augustin qui couronne cette colline, eh bien ça fait assez rêver. Pour un cadre plus général et une recontextualisation des choses dans un cadre géographique et dans un cadre chronologique, je vous ai remis cette carte que vous avez déjà vue la dernière fois, simplement pour voir qu'Hippone est bien au nord de l'Afrique actuelle, en Algérie exactement, un port en fait, de l'est de l'Algérie, pratiquement à la frontière avec la Tunisie. Vous savez que Carthage, c'est la capitale aujourd'hui de la Tunisie, Tunis, la frontière est ici. Hein. Donc Augustin est quelqu'un qui est africain et qui est algérien, si on peut dire par adoption ou par origine. Mais il n'est pas né à Hippone, il est né dans un petit village, on va le voir à côté, qui s'appelle Tagaste. Pour nous replonger dans un contexte chronologique, vous découvrez grâce à la frise du temps ici qu'on est bien avec des dates de naissance à 354 au milieu du 4e siècle et une date de mort au milieu du 5e en 430 à l'âge d'or de la patristique. Quand Saint Jean Chrysostome écrit à Constantinople, Augustin naît 10 ans après en Afrique. Donc il a des compagnons et des contemporains célèbres. Mais lui va briller par, on va le voir, sa maîtrise de la langue latine. Saint Paul VI déclarait, avant de le faire parler, je vais d'abord aller faire un petit zoom sur cette région, pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Voici là le découpage qui a été proposé et qui a été ordonné, surtout par Dioclétien, au cours de son règne, dans une espèce de tétrarchie de 293 à 305, vous voyez que les diocèses ont été créés à cette époque et que eh bien, le diocèse d'Afrique où est né Augustin représente à peu près ceci. Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose et que vous avez fait une idée très précise de ce qu'est les, que ce que sont les contours antiques de l'Algérie de l'époque, je vous ai replacé Hippone Annaba sur une carte et Tagaste Souk Arras aujourd'hui. Ils étaient sur une. Alors Tagaste est en plein milieu des terres, Hippone est bien au bord de la mer. Ce gros point que vous voyez ici, c'est le port de Carthage. Donc vous imaginez la frontière tunisienne aujourd'hui ici, en face de la Sicile, en face de la Sardaigne. Voici les vestiges idylliques de Carthage, Hippone au bord de la mer, Tagaste en pleine terre. Saint Paul VI déclarait, en pensant à Augustin, on peut dire que toute la pensée de l'Antiquité irrigue son œuvre et que celle-ci donne naissance à des courants de pensée qui imprègnent toute la tradition doctrinale des pères suivants. Augustin est en outre le père de l'Église qui nous a laissé le plus grand nombre d'œuvres. Son biographe Posidius, Posidius, comme on l'entend, Posidius, dit qu'il semblerait impossible qu'un homme puisse écrire tant de choses pendant sa vie. Je suis mon plan, je termine mon introduction. Nous attaquons le premier point important, sa vie. Petit a, l'influence maternelle. Augustin naît à Tagaste. Vous voyez Tagaste sur ma carte ici. Il deviendra évêque à Hippone et il passera, il fera quelques classes, nous allons le voir tout de suite, à Madaure. Augustin naît à Tagaste en Numidie, en Algérie actuelle, province de l'Afrique romaine, le 13 novembre 354. Fils de Patrice, un païen qui ensuite allait devenir catéchumène, et de Monique, une chrétienne fervente. Un côté païen et un côté très chrétien. Par son père païen, par sa mère, il a entendu parler de Jésus depuis qu'il est petit. Cette femme passionnée, vénérée comme sainte, exerça la plus grande influence sur son fils et l'éduqua dans la foi chrétienne. Augustin avait alors déjà reçu le sel en signe d'accueil au catéchuménat. Il était déjà catéchumène, mais il n'était pas allé plus loin. Et on va voir que cette pause a duré un peu de temps, et vous allez voir pourquoi. Et il allait toujours rester fasciné par la personne de Jésus-Christ. Il allait toujours rester fasciné par la personne de Jésus-Christ. Il dit avoir toujours aimé Jésus-Christ, mais en s'éloignant toujours plus de la foi ecclésiale, de la pratique ecclésiale. Augustin avait aussi un frère, Navigus, Navigius, et une sœur, dont nous ignorons le nom, mais qui restait veuve et qui par la suite fut à la tête d'un monastère féminin. Le jeune homme, Augustin, à l'intelligence vive, reçut une bonne éducation, même s'il ne fut pas toujours un étudiant exemplaire. Il étudia bien la grammaire, d'abord dans sa ville natale, Tagaste, puis ensuite à Madaure. Et à partir de 370, il part à Carthage, capitale de l'Afrique romaine. Je n'ai pas besoin de vous remettre, mais je peux vous la remettre quand même. Carthage n'est pas loin. Vous l'avez vu ici, Hippone Carthage. Vous la voyez ici par ce point-là. Carthage est ici. Donc il reste dans une aire géographique. Madaure est peut-être ici en bas. Il reste dans une zone assez concentrée qui est celle de son époque. Et cela lui suffit bien pour grandir. Retenez qu'il naît dans un contexte très modeste. C'est peut-être même un euphémisme, même très pauvre. Et on va le voir, il va réussir une ascension sociale exceptionnelle pour quelqu'un de son époque. On a dit qu'il partait donc en 370 à Carthage. Il part de Madaure vers Carthage pour suivre des cours de rhétorique. Il parvint à posséder parfaitement la langue latine, sans arriver pour autant à posséder aussi parfaitement le grec, et il n'apprit pas le punique parlé par ses compatriotes. C'est un génie, c'est quelqu'un de brillant, Mais il aura toujours des difficultés en grec parce que c'est pas sa sphère culturelle et que ben voilà, on peut pas être bon partout. Il a décidé de se concentrer à la langue latine et vous allez voir pourquoi il s'est concentré autant sur la langue latine. De même, il ne parlait pas le dialecte local, il n'était pas gallo, mais il ne parlait pas le punique. Punique, vous voyez d'où ça vient, de Carthage, et si vous avez eu quelques interrogations en version latine de ces fameuses guerres entre Rome et Carthage qu'on appelait les guerres puniques, eh bien, ou Hannibal le Carthaginois ou le Punique, vous savez que Punique, cela veut dire Carthaginois. Il ne parlait pas le dialecte local de Carthage, le Punique, mais il maîtrise, et on va le voir à la perfection, la langue latine. C'est justement à Carthage qu'Augustin lut pour la première fois l'Hortensius, un écrit de Cicéron maintenant perdu. Hortensius, qui a donné le mot jardin, est un dialogue philosophique de Cicéron, Cicéron qui lui a vécu 4 siècles avant Augustin, de 106 avant Jésus-Christ à 43 avant Jésus-Christ, et qui a composé cet Hortensius en 45, mais qui a disparu au Moyen Âge. Je l'avais déjà évoqué avec vous pour Origène, mais vous savez qu'une grande partie des chefs-d'œuvre de la littérature antique ont disparu. Oui, nous en avons une quantité à disposition aujourd'hui, mais ce n'est que la face immergée de l'iceberg, car une grande partie s'est perdue au cours du temps. L'Hortensius, eh bien, c'est un livre qui va prendre aux tripes Augustin et qui va réveiller sa jeunesse et qui va lui permettre notamment d'abord de faire carrière. L'Hortensius, c'est un livre qui va lui faire verser et tomber dans une recherche assidue, effrénée de la vérité à travers la philosophie antique et notamment celle de Platon. L'Hortensius, c'est quelque chose qui va marquer, imprimer en lui un caractère indélébile que le temps de Cicéron et que le temps de la République avant l'Empire est un âge d'or de l'Empire romain au niveau des élites sociales qu'il faut absolument retrouver et que la qualité de la langue restera inégalée. Ce qui fait que Augustin va s'évertuer toute sa vie à copier, à avoir pour seul maître Cicéron. Cela veut dire que le latin d'Augustin, qui est déjà normalement un latin tardif, parce que 4 siècles écrit après Cicéron, devrait être un latin plus facile, parce qu'un latin décadent. Mais en fait, comme Augustin maîtrise à la perfection le style cicéronien, eh bien, son latin est beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué à traduire. Voilà pourquoi il a fait pâlir les étudiants dans les versions latines. Parce que déjà, le style cicéronien, eh bien, cela veut dire que ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un paragraphe composé de 2 ou 3 phrases, c'est un paragraphe composé de 15 phrases. Ça veut dire que quand vous lisez les Confessions de Saint-Augustin, eh bien, pour finir une phrase, parfois, il faut finir une page. C'est comme Chateaubriand, ça se lit très bien et si vous n'arrivez pas à dormir, ben c'est parfait. Les mémoires d'outre-tombe ben, sur votre table de chevet, à mon avis, c'est parfait. C'est mieux que le Témesta. Mais c'est un style exceptionnel. On va le voir que Augustin maîtrise à la perfection le style de Cicéron, autant dans la qualité de la langue que dans la rhétorique. Et je reviendrai sur ce qu'est la rhétorique. Nous disons en effet que le texte cicéronien éveilla en lui l'amour de la sagesse, et comme devenu évêque, il écrira dans les Confessions, ce livre changea véritablement mes sentiments, au point que soudainement je ne vis que bassesse dans l'espérance du siècle, et que je convoitais l'immortelle sagesse avec un incroyable élan du cœur. Ce livre a donc une portée philosophique très importante pour réussir à lui faire renoncer au monde, avec en fait comme s'il avait été habité par un appel à la vie ascétique à la suite de la lecture de ce livre de Cicéron, et que du coup il s'avait dit, ben, je ne peux ne me tourner que vers Dieu. Ça, c'est important comme première étape, et même si cette étape lui parle au cœur, elle le saisit d'abord dans son intelligence. Vous voyez là que c'est par ce qu'il lit qu'il vise une conversion d'abord intellectuelle, mais qui est essentielle et très importante pour lui. Mais puisqu'il était convaincu que sans Jésus, Il n'est pas possible de dire qu'on a effectivement trouvé la vérité, et parce que ce nom de Jésus était absent de ce livre passionnant, l'Hortensius, tout de suite, après avoir lu l'Hortensius, il commença à lire l'Écriture, la Bible. Vous avez quelqu'un à 20 ans qui, en plein milieu de ses cours de rhétorique, découvre l'Hortensius de Cicéron. Il se dit, waouh, c'est génial, c'est exactement ça que je veux faire. Suivre cette voie ascétique, trouver la vérité à partir des principes philosophiques, et puis diriger ma vie à partir de ces principes philosophiques sans en exclure Dieu. Mais il se rend compte que dans l'Hortensius de Cicéron, il n'y a pas le nom de Jésus. Pas ben forcément, il a écrit 100 ans avant la naissance de Jésus. Alors il se dit, bon ben, j'ai qu'à lire la Bible et j'aurai les réponses enfin à ce que je vais trouver. Conclusion. Il en resta très déçu de la conclusion de la Bible, après avoir lu la Bible. Pourquoi? Il nous dit, non seulement parce que le style latin de la traduction de la Sainte Écriture était de qualité insuffisante, il la trouve médiocre. Ben oui, par rapport à Cicéron, à son beau style, à sa poésie, ben, la Bible, ce n'est qu'une bibliothèque. C'est plein de gens qui ont écrit de manière différente, qu'on a mis ensemble. Et puis, pour la traduction latine que Augustin a sous le nez, qui vient de Jérôme, qui a écrit il n'y a pas très longtemps, eh bien, il a traduit déjà du grec au latin. C'est déjà une qualité qui est plus médiocre. Pour lui, en tout cas, déjà, le style ne le convainc pas, parce qu'il n'y a pas d'unité. Donc déjà, il est déçu, parce qu'il est très attaché d'abord à la forme. On va voir pourquoi. Mais il resta aussi déçu parce que le contenu lui-même ne lui en apparaissait pas satisfaisant. Il lit tout. Vous aussi, vous vous dites ça, ben, tiens, je ne l'ai pas lu, ben, je vais relire la Bible. J'ai trouvé le temps de lire la Bible. Mais lui, il le fait. Mais il se permet de dire, eh bien, le style n'est pas convaincant et le fond non plus, pas assez satisfaisant pour l'instant. J'ai pas les réponses à mes questions. Petit b. Déçu par la lecture de la Bible en proie au manichéisme. Dans les récits scripturaires de guerre et autres événements humains, il ne trouvait pas la profondeur de la philosophie, la splendeur d'une recherche de la vérité qui lui est propre. Oh, il a lu les autres, hein. Il a lu Virgile, l'Énéide, il a lu l'Iliade et l'Odyssée, il connaissait tous ces classiques antiques, il a lu les récits de guerre, mais il ne trouvait pas dans ces récits ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la recherche absolue de la vérité. Et il n'y a que la philosophie qui a contenté sa soif de recherche. Il ne voulait pas vivre pourtant sans Dieu et par conséquent se mit en quête d'une religion répondant à son désir de vérité comme à son désir de s'approcher de Jésus. Bon, le christianisme qui est à ma portée, là, qui est sous ma porte, a des réponses, mais ça ne va pas parce que ça ne va pas avec mon idéal de la vérité et mon idéal de la philosophie. Comment faire pour que trouver une solution? La solution, c'était d'adhérer au manichéisme. Il tomba ainsi dans les filets des manichéens, qui se disaient chrétiens et promettaient une religion totalement rationnelle. Une religion rationnelle qui passe par l'esprit, par la réflexion, et où il n'y a de salut que dans la réflexion, pas dans une dimension de sentiment ni de cœur. Ils affirmaient que le monde est partagé entre deux principes, le bien et le mal. Ainsi s'expliquerait toute la complexité de l'histoire humaine. Je vous ai mis ici une petite définition du manichéisme. En corrigeant ici cette faute. Non. Pardon. Définition du manichéisme. Le manichéisme est une religion fondée par le Perse Mani au IIIe siècle. En fait, c'est un syncrétisme entre. C'est une religion opportuniste qui a pris tout ce qui était bien autour d'elle et qui a distingué un monde dualiste, deux mondes distincts. Un des fondements du manichéisme est de séparer le monde en deux. D'un côté, le royaume de la lumière, le royaume de la vie divine, où s'exprime ce qui est de l'ordre de l'éternité. De l'autre côté, le royaume des ténèbres, le royaume de la matière, le royaume des morts, où s'exprime ce qui est de l'ordre de l'espace et du temps. L'homme est donc constitué d'une dualité, il est double. Selon le manichéisme, la lumière et les ténèbres coexistaient sans jamais se mêler, mais à la suite d'un événement catastrophique, les ténèbres envahirent la lumière. De ce conflit est né l'homme naturel. Son esprit appartient au royaume de la lumière et son corps appartient au royaume des ténèbres. Ce qui peut transformer la mort non plus en processus destructif, mais en processus d'élévation suprême, de libération de l'esprit. Toute sa vie, on va chercher avec sa tête à rejoindre Dieu dans sa vérité et dans sa perfection. C'est la mort par la destruction du corps, qu'il soit brûlé ou simplement détruit par la décomposition, eh bien, permet en fait la libération du corps. Selon le manichéisme, l'homme naturel est donc double. Il possède un esprit appartenant au royaume de la lumière, c'est la part immortelle de l'homme, et un corps appartenant au royaume des ténèbres, c'est la part mortelle de l'homme. Imaginez donc la vision anthropologique que peut avoir Augustin quand il parle de ce côté si négatif de la part mortelle de l'homme. Ça rejaillira forcément dans toute sa vie et dans tous ses écrits. Et vous allez voir que dans une conversion extraordinaire où il va enfin réussir à parler avec son cœur, eh bien son langage sera capable de changer, il sera capable de regarder le corps d'une manière différente et d'une façon surtout positive. C'est ce que je vous inviterai à faire en lisant les Confessions. Il resta, Augustin, 9 ans auprès des manichéens. On peut dire que c'était une secte, mais c'était surtout une religion parmi tant d'autres, dans ce monde qui était devenu chrétien seulement depuis 100 ans, et où régnait encore sporadiquement, malgré l'édit de Théodose, eh bien, qui avait imposé la religion chrétienne comme religion d'empire, d'État, eh bien, il y avait des reliquats forcément de paganisme ou d'autres cultes. La morale dualiste plaisait également à Augustin parce qu'elle comportait une très haute morale destinée aux élus et pour qui, comme lui, y adhérer devenait possible une vie plus adéquate à la situation du temps, spécialement pour un jeune homme. Il se fit donc manichéen, convaincu qu'il était alors d'avoir trouvé la synthèse entre rationalité, recherche de la vérité et amour de Jésus-Christ. Cela comportait un avantage concret pour sa vie. En effet, l'adhésion au manichéisme lui ouvrait de faciles perspectives de carrière. C'est un réseau. C'est un réseau d'influence, en fait. Et si, évidemment, c'est un groupe élitiste qui s'y retrouve, eh bien, il côtoie que les gens de la haute de sa société à lui. Et évidemment, ben, entre copains, on cède, on se coopte et on arrive au pouvoir. Donc il fait preuve déjà d'une grande intelligence, d'une certaine habileté, mais surtout d'un grand opportunisme. Il va se servir du manichéisme pour pouvoir briller dans sa carrière simplement de rhéteur. On va voir que l'art oratoire va lui ouvrir beaucoup de portes. Adhérer à cette religion qui comptait tant de personnalités influentes lui permettait de continuer la relation nouée avec une femme et d'avancer dans sa carrière. De cette femme, il eut un fils qui s'appelait Adéoda, A-D-E-O-D-A-T, qui signifie « Dieu a donné » ou « Dieu donné ». Rien que le prénom vous dit que Augustin n'a jamais été païen. Nous, on a tendance parfois à projeter l'image d'un Augustin comme un saint Paul foudroyé sur le chemin de Damas. Il passe de prosélyte qui veut exterminer les chrétiens à l'apôtre des gentils, une des colonnes de l'Église. Augustin, ce n'est pas le cas. Augustin, il a bien une idée de Dieu, il a une recherche très grande de la vérité. Il est tout le temps avec Dieu, mais il balbutie parce que pour l'instant, il pense trop encore avec sa tête. Et il n'a pas fait l'expérience d'une rencontre de Dieu avec le cœur. De cette femme, il eut un fils, Adéoda, qui lui était cher, de grande intelligence, et qui sera par la suite présent à sa préparation au baptême près du lac de Côme et participera au dialogue philosophique que saint Augustin nous a transmis. Parce que pendant tout son cheminement, Augustin écrit, et ça c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il écrit tout au long de sa vie, et quand c'est dans cette partie de recherche philosophique, eh bien il écrit des dialogues philosophiques qui nous permettent de savoir exactement en fait ce qu'il cherchait, et où Dieu est présent. Alors professeur de grammaire à quelque 20 ans dans sa ville natale, Augustin retourna rapidement à Carthage, où il devient un brillant et célèbre professeur de rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de l'éloquence, l'art de parler en public, l'art de maîtriser toutes les composantes techniques du discours qui permettent de retenir l'attention d'une foule, de capter l'attention de son auditoire. L'apologétique, l'art de se défendre, de convaincre par un vocabulaire, par des techniques oratoires, que ce soit l'exégétique, que ce soit l'analytique, il maîtrise en fait parfaitement, ou même en fait, la prose. La prose, c'est une technique oratoire. On compte le nombre de pieds des vers, et j'arrive par mes rimes à faire passer des messages. Les anaphores, toutes les figures de style, tout ça, c'est la rhétorique. Les politiciens qui malheureusement ne font plus de cours de rhétorique devraient reprendre des cours. Les prêtres qui ne font plus de cours de rhétorique devraient reprendre des cours. Parce que si les homélies sont parfois si chut, voilà, eh bien c'est parce que il nous manque aussi des cours de rhétorique. Et les cours de rhétorique, eh bien ça s'apprend, il y a des techniques au-delà même du fond. Là, on est absolument braqué seulement sur la forme. Et la forme, elle est capitale parce que la forme, elle est capitale parce qu'elle peut déformer le message. C'est-à-dire que vous pouvez être attiré par un message simplement par la forme et bien plus tard seulement vous vous rendez compte que le fond, ben, vous ne le partagez absolument pas. Ça, c'est la puissance de la rhétorique. Et c'est ça le brio des grands avocats. D'abord par la forme, après par le fond. Et évidemment, évidemment, si vous rejoignez le fond et la forme, eh bien c'est l'explosion atomique. Vous arrivez à convaincre des foules extraordinaires parce que en plus il y a l'unité. Ce jeune homme, Adéoda, mourut. Augustin part à Carthage enseigner la rhétorique et c'est à partir de là qu'il s'éloigne de la foi manichéenne qui malheureusement le décevait, car précisément sur le plan intellectuel, elle était incapable de résoudre ses doutes. Et oui, les prémices de réponse, mais il n'a que les prémices de réponse. Le fait qu'il doit laisser le corps de côté, ça lui pose quand même bien problème. Et puis, le fait que ce monde soit intellectuel, mais pas très tangible, eh bien, ça l'a beaucoup déçu. Il part alors à Rome, puis à Milan, qui est la capitale de l'Empire romain au milieu du IVe siècle. Le pouvoir est passé de Rome à Milan, et à Milan, eh bien cela va lui ouvrir des perspectives nouvelles, parce que c'est à Milan que réside la cour impériale, et c'est là qu'il a obtenu un poste prestigieux grâce à l'intervention et aux recommandations de Symmaque, qui à l'époque est préfet à Rome, et qui était païen et profondément hostile à l'évêque de Milan, un certain Ambroise. Augustin parvient à avoir son poste à Milan grâce au préfet de Rome parce qu'il est hostile à Ambroise. Ça, c'est de l'opportunisme. Mais le Seigneur n'a plus d'un secret dans sa poche et plus d'un tour dans son sac. Et il se servira de cette animosité pour convertir plus tard Augustin avec le même Ambroise dont il s'était servi pour avoir son poste. Mais là, c'est Augustin qui va céder devant les coups du Seigneur. Augustin a maintenant 33 ans, il est à Milan, il est au sommet de sa carrière, au service de la cour impériale. Il devient le plus grand professeur de rhétorique et d'éloquence de son temps, et il est l'orateur de l'empereur. À l'époque, il y a une régence, l'empereur a 14 ans, donc vous pensez bien que c'est pas lui qui fait les discours publics. Il y a toujours un orateur public pour l'empereur. Augustin, ça veut dire qu'il rédige tous les discours. Et il les prononce lui-même au nom de l'empereur. Imaginez le prestige que vous pouvez retenir si vous êtes non seulement à cause du poste, mais en plus si vous êtes brillant, c'est sûr que vous ne passez pas comme anonyme au milieu des foules. Cela veut dire aussi que le rôle public de l'empereur, c'est de chanter, d'écrire, de louer en permanence l'empereur. Ah, évidemment, il est au service de sa propagande. Évidemment, à cette époque, eh bien, il sert complètement le pouvoir. C'est à Milan enfin qu'Augustin prit l'habitude d'écouter d'abord dans un but d'enrichissement de son bagage rhétorique les magnifiques prédications de l'évêque Ambroise. Il se pointe en cachette aux catéchèses de l'évêque de Milan parce qu'il a entendu dire qu'il parlait super bien, que c'était un grand orateur. Sûrement piqué au vif de son orgueil, il se dit, il y a un deuxième orateur aussi compétent que moi à Milan, allons voir comment il parle. Il va aux catéchèses que Ambroise fait aux jeunes catéchumènes de Milan, il se met au milieu de la foule, personne ne le reconnaît, et il est complètement séduit, cette fois par la forme qu'il doit reconnaître qu'il a quelqu'un, un ennemi à sa hauteur, mais surtout par le fond. Et là, il y a adhésion du fond et de la forme. Et là, ça va bousculer profondément Augustin. Le rhéteur africain fut fasciné par la parole du grand prélat milanais, et pas seulement par sa rhétorique, mais surtout par son contenu qui lui touchait le cœur toujours davantage. Le grand problème de l'Ancien Testament et de son style médiocre, du manque d'une belle rhétorique ou d'une haute philosophie, fut résolu dans les prédications de saint Ambroise, notamment grâce à son interprétation typologique de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'interprétation typologique de l'Ancien Testament? Je vous l'ai déjà expliqué avec Origène. C'est le fait de pouvoir relire l'Ancien Testament avec, comme clé de lecture, le Christ Jésus, le Messie qui devait arriver. Abraham n'est que, en fait, la préfiguration de Jésus. Moïse n'est que le libérateur de son peuple, mais la préfiguration du vrai Messie qui allait arriver, Jésus. Les prophètes nous apportent un message de délivrance, simplement l'annonce que Jésus, le Messie, va arriver. Et cette relecture-là que Ambroise fait sans cesse dans ses catéchèses, c'est ça qui va être une nouvelle clé de lecture et qui va sublimer en fait le style qui ne passait pas. Il va comprendre que le sens devient plus important que la forme. Augustin comprit alors que tout l'Ancien Testament est un chemin vers Jésus-Christ. Il y trouva la clé pour comprendre la beauté, la profondeur, même philosophique, de l'Ancien Testament. Et il comprit toute l'unité du ministère du Christ dans l'histoire, comme aussi la synthèse entre philosophie, rationalité et foi dans le Logos, dans le Christ Verbe éternel qui s'est fait chair. Petit C de notre étape, sa conversion. Rapidement, Augustin se rendit compte que la lecture allégorique de l'Écriture et la philosophie néoplatonicienne professée par l'évêque de Milan lui permettaient de résoudre les difficultés intellectuelles qui lui étaient apparues insurmontables lors de sa première approche des textes bibliques quand il était plus jeune. Augustin fit suivre sa lecture des écrits des philosophes d'une lecture renouvelée de l'Écriture et surtout des épîtres de saint Paul. De quand date sa conversion? Eh bien, je vais vous le dire, sa conversion au christianisme a lieu le 15 août 386. Elle se situa donc au sommet d'un long et pénible itinéraire intérieur. L'Africain se rendit à la campagne, au nord de Milan, près du lac de Côme, avec sa mère Monique, son fils Adéoda et un petit groupe d'amis. Il s'agissait là de préparer son baptême. Ainsi, à 32 ans, Augustin fut baptisé par Ambroise le 24 avril 387, pendant la vigile pascale, dans la cathédrale de Milan. J'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure sur le texte qui nous est raconté dans les confessions de cette conversion justement d'Augustin, où il trouve la force de franchir un pas supérieur après avoir écouté les catéchèses d'Ambroise, mais surtout après avoir lu un passage décisif des écrits de saint Paul. Baptême d'Augustin, le 15 août 386. Vous voyez ici Ambroise dans une représentation idyllique de la Renaissance. Augustinus baptizatur, Augustin est baptisé, exultat ecclesia, l'Église exulte. Ambroise baptise Augustin. Après le baptême, Augustin décida de retourner en Afrique avec ses amis dans l'idée de pratiquer une vie commune du type monastique au service de Dieu, mais à Ostie, en attendant le départ, Sa mère tomba subitement malade et mourut en peu de temps. Son fils en eut le cœur déchiré. Alors, il est baptisé par Ambroise, il ne reste pas à Milan et il fait le choix d'une vie ascétique. Ce qu'il avait déjà fait en fait à travers le manichéisme, parce que ce groupe d'élus menait une vie déjà ascétique. Mais là, il l'applique au christianisme. Comme il sait que le monachisme s'est déjà développé de façon assez forte dans tout l'Empire romain, qu'il était né déjà autour d'Origène avec des gens comme Athanase par la suite, qui ont écrit la vie de saint Antoine au milieu du 3e siècle, ou à Trèves, en Allemagne aujourd'hui, ou plus loin encore à Jérusalem avec saint Jérôme, ou même à Rome, et c'est saint Jérôme aussi qui va développer le monachisme à Rome, mais il connaît déjà le monachisme. Les règles du monachisme, c'est deux possibilités, c'est ou la vie cénobitique, la vie en communauté, ou la vie érémitique, la vie tout seul. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie cénobitique, la vie en communauté. Et il est séduit par ce mode de vie parce que ça lui permet de sans cesse réfléchir et de sans cesse écrire. Et c'est à ça qu'il veut se consacrer. Il rentre donc en Afrique. Rentré dans sa patrie, le nouveau converti s'établit à Hippone, dans le but d'y fonder un monastère. Vous vous rappelez la ville qui a directement vue sur la mer Méditerranée. Dans cette ville de la côte africaine, il fut malgré ses réticences ordonné prêtre en 391 et il commença avec quelques compagnons à vivre la vie monastique à laquelle il pensait depuis un certain temps, partageant son temps entre la prière, l'étude et la prédication. Il arrive en Afrique, il veut mener cette vie ascétique, monastique, faite de réflexion, faite d'écriture, de partage simple dans la charité, mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent qui est Augustin, ils savent son génie, son brio, et ils se disent « mais tu seras au service du peuple ». Et le premier qui voit ça et qui s'en rend compte, c'est l'évêque d'Hippone à l'époque, et qui lui dit « toi, tu vas d'abord être prêtre et tu vas être au service des autres. Il est impossible que ton talent ne serve pas aux autres ». Il désirait être seul et au service de la vérité, ne se sentant pas appelé à la vie pastorale, mais il comprit peu à peu que l'appel de Dieu était qu'il soit pasteur de son prochain et donc qu'il offre aux autres le don de la vérité. Petit dé, évêque d'Hippone pendant 35 ans. C'est à Hippone que, 4 ans plus tard, il fut ordonné évêque, continuant à approfondir sa connaissance des Écritures et des textes de la tradition chrétienne, Augustin fut un évêque exemplaire dans son infatigable engagement pastoral. Il prêchait à ses fidèles plusieurs fois par semaine, aidait les pauvres et les orphelins, prenait soin de la formation du clergé et de l'organisation de monastères féminins et masculins. En résumé, l'ancien rhéteur s'affirma comme l'un des personnages les plus importants du christianisme de ce temps-là. Extrêmement actif dans le gouvernement de son diocèse, avec de notables résultats, y compris dans le domaine civil, lors des 35 ans et plus de son épiscopat, l'évêque d'Hippone exerça en effet une grande influence sur la vie de l'Église catholique en Afrique romaine et plus généralement sur le christianisme de son temps, affrontant des courants religieux et des hérésies tenaces, source de division contre comme le manichéisme dont on a déjà parlé, le donatisme dont on va parler, et le pélagianisme, qui mettait en danger la foi chrétienne en un Dieu unique, riche en miséricorde. Et Augustin s'en remettait à Dieu chaque jour, jusqu'à l'extrême de sa vie, atteint par les fièvres, alors que son Hippone était depuis 3 mois assiégé par les envahisseurs vandales, son ami Posidius, dans sa Vita Augustini, la vie d'Augustin, raconte qu'il demanda que les psaumes de la pénitence soient transcrits en grand caractère au-dessus de son lit. On nous dit, son biographe nous dit, il fit afficher ses psaumes et ses feuilles contre le mur, de façon à ce que, alité par la maladie, il pût les voir et les lire, pleurant continuellement à chaudes larmes. Voici à quoi devait ressembler Hippone à l'époque d'Augustin. C'est des dessins faits par des archéologues sur les vestiges trouvés justement à Annaba. On voit surtout ce bâtiment oblong, qui est en fait une basilique antique, qui est devenue surtout basilique édifice religieux. Je vous rappelle que la basilique, c'est d'abord un édifice civil qui servait, en fait c'était des halles, un marché couvert, avec toujours une rotonde, une abside au fond, dans laquelle on pouvait rendre la justice. Cet édifice avait été repéré évidemment comme les chrétiens comme très pratique parce que simplement il permettait d'abriter beaucoup de gens et surtout l'abside avait été consacrée en fait à l'endroit où on allait célébrer la messe. Voici le plan de la basilique d'Hippone du temps d'Augustin. Augustin est évêque, 35 ans consacré à son ministère, mais il passe aussi par les souffrances de la vie et notamment aussi comme tout le monde par la mort. Il devra faire face surtout à un de ses plus grands maux, qui sera de voir, de constater comme spectateur plus ou moins impuissant, l'arrivée des invasions barbares sur ses propres terres. C'est Posidius, son ami et biographe, qui écrit cela dans la Vita Augustini. Je vous ai dit, quand il meurt, il a les psaumes, notamment, à mon avis, le De Profundis en face des yeux. Il a l'écriture sans cesse en face de lui, parce qu'il a peur de mourir, mais surtout parce qu'il a peur de perdre ce lien intense qu'il avait déjà avec Dieu. Mais on sait que le 28 août 430, alors que les Vandales arrivent et ont déjà assiégé la ville d'Hippone, il meurt âgé de 76 ans. Le 28 août 430, Augustin meurt. Petit point pratique d'histoire pour ne pas nous perdre. Les Vandales, vous les voyez, sont bien venus de l'Est, ont d'abord envahi l'Italie du Nord, puis ensuite la Gaule, l'Hispanie, et ils arrivent à grand déboulé assez vite. Pas de bol, ils passent exactement sur Hippone, parce qu'en fait, c'est avec Carthage le port de départ pour ensuite attaquer Rome. Donc c'était l'autoroute et Augustin était à côté de l'autoroute. Et évidemment, il va assister au déclin non seulement de sa propre civilisation, civilisation. Vous imaginez que si Augustin est pétri de l'Antiquité, qu'il est fan, c'est moins qu'on puisse dire, des auteurs antiques et de cette culture, voir déjà le déclin de sa propre civilisation, c'est délicat. Voir l'arrivée des Vandales, on va le voir que c'est encore plus délicat. Petit E, ces dernières années. 4 ans avant sa mort, il voulut désigner son successeur. À cette fin, le 26 septembre 426, il rassembla donc le peuple dans la basilique de la paix à Hippone, pour présenter aux fidèles celui qu'il avait choisi pour cette tâche. Augustin donna le nom de son successeur désigné, le prêtre Héraclius, qui devint le nouvel évêque d'Hippone. Il voulait consacrer les années qui lui restaient à une étude plus intensive des Saintes Écritures. Ah, mais voilà quelqu'un qui n'est pas normal du tout, en fait. Et ça, c'est le signe de la sainteté. En général, le prophète, c'est celui qui est atypique. Mais le saint aussi, c'est toujours un marginal. Il est incompris en fait. Il est bizarre. Les jeunes aujourd'hui diraient qu'il est chelou. Il y a un truc qui est étrange. Il attire par son comportement. Lui, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il est déjà vieux. Il a déjà plus de 70 ans. Il mourra à 76. Au lieu de se dire, j'ai bien vécu, je vais me retirer dans le silence, il se retire certes dans le silence, mais pour étudier davantage. Étudier davantage les Saintes Écritures. Et reprendre l'ensemble de tout ce qu'il a écrit pour le corriger, pour le mettre en ordre, parce qu'il a conscience qu'en fait il écrit pour la postérité. Alors ça, pour moi, c'est la définition du trait du génie. Il est conscient de son propre génie, il est humble, mais il sait qu'il le fait pour la postérité. Et il va tout remettre en ordre, corriger ce qu'il voulait faire, finir ce qu'il n'avait pas fini, et notamment créer un sommaire et un index pour faciliter les recherches de ses propres écrits. En effet, les années qui suivirent furent 4 années d'une extraordinaire activité intellectuelle. Il mena à bonne fin des œuvres importantes et il entreprit d'autres non moins exigeantes. Entre-temps, il mena des débats publics avec les hérétiques, chercha toujours le dialogue. Il intervint pour promouvoir la paix dans les provinces africaines assiégées par les tribus barbares du Sud. Malheureusement, l'espérance d'une pacification des territoires africains allait être déçue. En mai 429, les Vandales traversèrent le détroit de Gibraltar et se répandirent en Mauritanie. L'invasion atteignit rapidement les autres riches provinces africaines et en mai ou juin 430, les destructeurs de l'Empire romain, comme le dit son biographe Posidius, appellent les barbares, étaient aux approches d'Hippone dont ils commencèrent le siège. Augustin meurt le 28 août 430. Voici pour la partie biographique pure. Intéressons-nous maintenant à sa puissance d'intellect et sa puissance théologique. La deuxième partie que nous allons voir ensemble s'appelle « Foi et raison » ou « Raison et foi ». Tout d'abord, le problème qui a occupé le plus la jeunesse d'Augustin, c'est toujours le même, chercher à allier la foi et la raison. Mais voici que pour trouver une solution, il va devoir faire des concessions et trouver un langage nouveau. Et il va adopter un style et un langage nouveau qui lui est propre et qui sont de vraies nouveautés théologiques. Comment faire dialoguer la théologie avec la philosophie? C'est un problème difficile car il s'agit de passer indemne d'un extrême à l'autre, entre le fidéisme qui méprise la raison et le rationalisme qui exclut la foi. Si je suis fidéiste, je vais à tel point pour me concentrer sur la foi que je vais me dire, bah, allez, laisse céder ta raison, c'est pas grave, ça tu peux pas le comprendre, mais c'est pas grave. Et le contraire, bah, c'est le rationalisme. Bon, tu vas quand même pas croire ça, toute ta raison te dit que tu ne peux pas le croire, donc tu ne peux pas le croire. Voilà les deux extrêmes. Comment je fais le pont entre les deux? L'effort intellectuel et pastoral d'Augustin fut de montrer, sans l'ombre d'un doute, que les deux forces qui nous conduisent à la connaissance c'est Dieu, et bien que ces deux forces doivent toujours coopérer ensemble. Et voilà le génie d'Augustin, savoir que l'un et l'autre ne peuvent jamais être mis de côté. Il écouta la foi, mais n'exalta pas moins la raison, donnant à chacune sa primauté, soit de temps ou d'importance. Sur ce point sont restées célèbres à juste titre deux formules augustiniennes qui expriment cette synthèse cohérente entre foi et raison. Crede ut intelligas, crois pour comprendre, parce que croire c'est ouvrir la porte à la vérité, mais aussi intellige ut credas, comprend pour croire, scrute la vérité pour pouvoir trouver Dieu et croire. Je peux partir comme présupposé pour connaître Dieu de ma foi et des éléments qui me sont donnés de voir, eh bien, je peux commencer à réfléchir et à mettre des mots à un langage qui s'exprime. Je crois pour comprendre. Mais à l'inverse, je peux laisser ma foi de côté et puis par ma raison, arriver à réfléchir à des conclusions qui me mènent à la foi. Comprendre pour croire. C'est vraiment une devise qui va guider toute sa vie, l'articulation même de sa pensée, et comment lier sans cesse son esprit, la vitalité de son esprit, avec laisser parler franchement son cœur. Il écrivit un ouvrage toujours actuel sur l'utilité de la foi et expliqua que la foi est la médecine destinée à guérir l'œil de l'esprit. La foi est la médecine destinée à guérir l'œil de l'esprit. La forteresse imprenable pour la défense de tous, particulièrement des faibles, contre l'erreur, le nid dans lequel on met les plumes pour les hauts vols de l'esprit. La voie courte qui permet de connaître bientôt, avec assurance et sans erreur, les vérités qui conduisent l'homme à la sagesse. Voilà comment Augustin écrit et comment il s'exprime. Mais il soutint aussi que la foi n'est jamais sans raison, parce que la raison qui montre à qui on doit croire. C'est pourquoi, et attention, accrochez-vous, c'est parti pour le vol supersonique, même la foi a ses yeux avec lesquels elle voit en quelque sorte qu'est vrai ce qu'elle ne voit pas encore. Attention, je vous réveille de votre sieste. Si vous n'êtes pas prêt, on peut aller faire un tour dehors. La pluie qui tombe maintenant va nous réveiller. Elle n'est pas cinglante, mais en tout cas, elle est fraîche. Même la foi a ses yeux avec lesquels elle voit en quelque sorte qu'est vrai ce qu'elle ne voit pas encore. Vous pouvez saisir avec votre cœur, avec vos propres sentiments, quelque chose qui vous paraît vrai, et il l'est. Vous en voyez les contours, mais ça reste encore flou. C'est ça que ça veut dire. Personne ne croit donc avant d'avoir pensé de devoir croire. Bon, ça, c'est pas difficile à comprendre en fait. Personne ne croit donc avant d'avoir pensé de devoir croire. Vous ne pouvez pas croire parce que votre foi est l'expression forcément d'un langage qui passe par votre tête. C'est ça que ça veut dire. Quand vous dites que vous croyez, vous l'exprimez à travers des mots. Ces mots passent par votre intelligibilité, donc par un langage, donc par une pensée. Ben ça, c'est déjà une raison pour dire que, par exemple, quand je crois, forcément, je pense aussi. Je pense donc je suis. Donc je crois. Car croire autre chose n'est que penser avec assentiment. En fait, la foi, ce serait d'abord penser avec le cœur. Je pense avec le cœur et je mets des mots grâce à mon cœur sur un langage qui n'est pas doté que de raison. Si bien que la foi qui n'est pas pensée n'est pas foi. Ça veut dire aussi que si je pense des choses avec mon cœur, mais que je ne l'ai pas fait passer par mon esprit, ben, elle n'a pas été mise au discernement de ma pensée. Je ne vais pas me mettre à croire des choses qui ne sont pas raisonnables de penser. Il faut bien que mon esprit discerne ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne vais pas être saisi simplement par la forme. Il faut que je distingue aussi le contenu et le fond. Donc j'ai besoin de mon esprit. Mais j'ai besoin de mon cœur. Mais j'ai besoin de mon esprit. Mais j'ai besoin de mon cœur. Et c'est ce ping-pong, ce va-et-vient quotidien qu'Augustin exprime. Le discours sur les yeux de la foi débouche sur celui de la crédibilité, dont Augustin parle souvent en invoquant ses motifs. Comme pour confirmer la conscience avec laquelle il était retourné lui-même à la foi catholique, il convient de rapporter un texte ici. La crédibilité, c'est en fait trouver des arguments qui disent, ben voilà, il y a plein de gens qui vous disent, mais comment tu peux croire, comment tu peux être catholique? Mais t'es au courant, tu regardes les infos, comment tu peux croire à ça? Ton Dieu, il laisse faire les guerres. Combien de fois vous avez entendu ça? La crédibilité, bien, c'est quels sont les arguments qui disent, ben voilà, je peux me défendre en tant que chrétien, voilà. Et bien, Augustin, il nous donne une liste. Et il nous dit, nombreuses sont les raisons qui me retiennent au sein de l'Église catholique. À part la sagesse de l'enseignement, déjà, premièrement, l'enseignement, c'est la sagesse de l'enseignement. Il la met au-dessus de tout. Me retient le consentement des peuples et des nations. Je ne suis pas seul à croire, hein. Il y a une église derrière moi. Il y a l'ensemble de l'Empire, dans sa majorité, qui croit avec moi. Vous entendez déjà tous les critiques qui vont autour, hein. Ça ne suffit pas pour croire. Il dit encore, me retient l'autorité fondée par les miracles. Tout ce que les gens vous disent, bah, tu n'as pas croire aux miracles quand même. Ah oui, mais les miracles, c'est une autorité, hein. Jésus, il a fait des miracles, c'est écrit dans l'Évangile. Pour nous, c'est un livre qui fait autorité. Eh bien, pour Augustin, je suis désolé, c'est la troisième ligne d'autorité. Derrière la sagesse et derrière le fait d'appartenir à une nation qui croit, le troisième signe, ce sont les miracles de Jésus. N'ayez pas peur, hein, de dire, voilà, moi je crois au miracle de Jésus. Jésus a ressuscité, réveillé la fille de Jaïr. Il a ressuscité Lazare parce qu'il allait annoncer sa future résurrection. Moi, j'y crois. Si Jésus a fait des exorcismes, eh bien je crois à ces miracles. Pour Augustin, c'est un signe de l'autorité. Il est aussi nourri par l'espérance. Parce que c'est ça pour lui la crédibilité d'un chrétien, quelqu'un qui se meut par l'espérance. Malgré tout ce qui se passe dans notre époque, dans ce temps qui semble s'écrouler, comme à l'époque d'Augustin, il est d'abord meut, nourri par l'espérance. Vertu cardinale, foi, espérance, charité. Eh bien lui, l'espérance vient après les miracles. Augmenté par la charité, deuxième vertu cardinale. Affermi par l'Antiquité. Il appartient à une époque, ça fait 400 ans que le Christ est venu sur terre. Eh bien, il retient avec assiduité la tradition de ses pères qui l'ont précédé. Eh bien, ça, pour lui, c'est un argument d'autorité. Me retient la succession des évêques. Il appartient à une succession. Il est évêque, donc comme l'apôtre Pierre, auquel le Seigneur, après la résurrection, donna à paître ses brebis. Il a un ministère d'enseignement en tant qu'évêque, jusqu'au présent épiscopat. Me retient enfin le nom même de catholique, que sans raison seule cette Église a obtenu. Catholique qui signifie bien universel. Voilà une liste de critères que Augustin a écrit notamment en réponse aux manichéens, comme quoi il se trouvait beaucoup mieux depuis dans l'Église catholique qu'auprès d'eux. Dans la grande œuvre de la Cité de Dieu, qui est à la fois apologétique et dogmatique, apologétique, ça veut dire que le style est de convaincre le lecteur, et dogmatique, eh bien, d'asseoir un enseignement avec autorité, qu'il est bon de croire. Le problème raison et foi devient celui de la foi et de la culture. En fait, la Cité de Dieu, si vous le lisez, ce très beau roman, c'est d'abord la description de ce monde qui s'écroule sous ses yeux, l'arrivée des Vandales. Augustin, qui a tant œuvré pour fonder et promouvoir la culture chrétienne, le résout par trois grands arguments. L'exposition fidèle de la doctrine chrétienne, la récupération attentive de la culture païenne dans ce qu'elle avait de récupérable, notamment la philosophie, hein, et enfin la démonstration insistante de la présence dans l'enseignement chrétien de ce qu'il y avait de vrai et de perpétuel dans cette culture, avec l'avantage de s'y trouver perfectionné et sublimé. C'est-à-dire, je vais garder le meilleur de ce qui est issu de ma culture, je vais y ajouter les concepts de la théologie catholique et je vais le proposer aux gens dans ce livre que s'appelle « La Cité de Dieu ». Ce n'est pas pour rien que la Cité de Dieu fut très lue au Moyen-Âge et elle mérite beaucoup d'être lue aujourd'hui aussi comme un exemple et un encouragement pour approfondir la rencontre du christianisme avec les cultures des peuples. Il vaut la peine de rapporter un exemple du texte de la Cité de Dieu. Voici un exemple. La cité céleste convoque des citoyens de toutes les nations sans se soucier de la différence des mœurs, des lois, des institutions, ne supprime ni ne détruit aucune de ces choses, bien qu'elle accepte et conserve tout ce qui, bien que différent dans les différentes nations, tend à une seule et même fin, la paix terrestre, à condition qu'elle n'empêche pas la religion qui enseigne à adorer l'unique Dieu suprême et vrai. C'est la définition de la laïcité, au milieu du IVe siècle, et on n'a pas fait mieux aujourd'hui, et on n'est toujours pas capable de la respecter en France. Ça, c'est la définition de comment vivre en paix, et de pouvoir croire en toute liberté. Eh bien, tout ça, c'est déjà défini dans la Cité de Dieu, parce qu'il sait que les chrétiens ne vont plus être au centre de l'Empire, et qu'il va falloir composer avec les autres. Comment faire? Eh bien, il jette dans cet ouvrage les bases de ce vivre ensemble. Petit a, la proximité de Dieu avec l'homme. Les deux affirmations d'Augustin expriment avec netteté, de manière directe et profonde, une synthèse de ce problème dans laquelle l'Église catholique reconnaît l'expression de son chemin. D'un point de vue historique parlant, cette synthèse s'est cristallisée dès avant la venue du Christ dans la rencontre entre la foi hébraïque et la pensée grecque, au sein du judaïsme hellénistique. Depuis toujours en fait, hein. Depuis le début du christianisme, il a fallu composer avec des gens qui n'étaient pas chrétiens, parce que même Jésus n'était pas chrétien. Donc comment on fait pour évangéliser les juifs et comment on va faire pour évangéliser les gentils, les païens? Puis, au cours de l'histoire, cette synthèse fut reprise et développée par un grand nombre de penseurs chrétiens. L'harmonie entre foi et raison signifie avant tout que Dieu n'est pas éloigné. Il n'est pas éloigné de notre raison et de notre vie. Il est proche de tout être humain, proche de notre cœur et proche de notre raison, si nous nous mettons réellement en chemin. C'est justement cette proximité de Dieu avec l'homme que découvrit Augustin avec une extraordinaire intensité. La présence de Dieu dans l'homme est profonde et elle est en même temps mystérieuse. Mais elle peut être reconnue et découverte dans l'intimité de l'être. Il ne s'agit pas de sortir, affirme Augustin. Allons voir donc ce qu'Augustin nous dit de cette expérience intime de l'homme et de ce cœur où il peut trouver Dieu en personne. Sache donc où est l'accord parfait, mais ne va pas au dehors. Cherche en toi-même. La vérité réside dans l'homme intérieur. Et si ta nature te paraît trop inconstante, élève-toi plus haut. Mais souviens-toi que t'élever au-dessus de toi, c'est élever au-dessus de la raison. Monte donc jusqu'au foyer où s'allume le flambeau de cette raison. Première démarche, descends en toi-même et va chercher à l'intérieur. Pour écouter le fond de ton être, il y a toujours quelqu'un. La base de l'oraison, la base de toute prière. Mettez-vous en silence. Dieu est toujours prêt à vous parler et à vous écouter. La base de toute relation théologique. Pour écouter le fond de ton être, il y a toujours quelqu'un. Rentre en ton cœur. C'est là que tu verras ce que tu pressentais de Dieu, car c'est là qu'est l'image de Dieu. Dans l'homme intérieur habite le Christ. Dans l'homme intérieur, l'homme est renouvelé à l'image de Dieu et connaît son Créateur à travers son image. Arrêtez d'aller chercher au-delà de vous-même, chez les autres, les réponses. Commencez cette première histoire d'amitié avec le bon Dieu en faisant silence et en allant demander à l'intérieur de vous-même, Seigneur, es-tu là? Je te présente mes problèmes. Je te présente ma vie. Maintenant, je te laisse la place, viens me répondre. La base de l'expérience de foi. Tu cherches un haut lieu, un lieu sacré, c'est en toi qu'il faut élever un temple à Dieu. Croire à ces réalités qui sont en nous aussi présentes que chacun est présent à soi-même. N'ayons pas peur de croire que Dieu est vraiment présent en moi. Il continue. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos, inquiet, inquietus au sens latin, qui n'a pas de repos, est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le sceau de Dieu, l'empreinte, nous l'avons toujours. Nous avons perdu la ressemblance à cause du péché. Mais l'image, nous sommes créés à l'image de Dieu, et cette image est imprimée en nous, dans notre cœur. Et ça, nous pouvons toujours le regarder comme dans un miroir. Il suffit pour cela simplement de rentrer en nous-mêmes, c'est ce que dit Augustin. Toi, en effet, reconnaît saint Augustin en s'adressant directement à Dieu, tu étais intérieur à l'intimité, supérieur aux sommités de mon âme. Intérieur à l'intimité, supérieur aux sommités de mon âme. Où étais-je quand je te cherchais? Tu étais devant moi, mais absent de moi-même et ne me trouvant pas, que j'étais loin de te trouver. Nous passons notre temps à chercher le bon Dieu, par-ci, par-là, en mettant toute notre énergie. Et nous allons voir les prêtres en disant, mais je n'arrête pas de tout faire, je le cherche, je mets toute mon énergie. Très bien, commencez par vous poser et faites cette démarche humble et paisible de Augustin dans le silence et rentrez à l'intérieur de vous, dans cette introspection, et allez dialoguer non pas avec vous-même, mais avec Dieu qui parle au plus intime de votre cœur. C'est bien parce qu'Augustin a vécu personnellement cet itinéraire intellectuel et spirituel qu'il a su le rapporter dans ses œuvres si franchement, avec tant de profondeur et de sagesse. Augustin l'a vécu, il a écrit dans les Confessions, j'ai cherché avec ma tête pendant des années, et j'arrivais pas à comprendre, et ce que je cherchais était à l'intérieur de moi, la réponse je l'avais en moi-même. C'est ça qu'il nous dit. N'allez pas tomber dans les ravins de telle ou telle désillusion. Moi, je suis déjà tombé pour vous. Il nous fait économiser du temps. Il a su le rapporter dans ses œuvres si franchement et avec tant de profondeur et de sagesse, reconnaissant en deux autres célèbres passages des Confessions que l'homme est une grande énigme et un grand abîme. Voilà la définition de l'homme. Une grande énigme et un grand abîme. Énigme et abîme que seul Dieu éclaire et sauve. Cela est important, un homme qui est loin de Dieu est également loin de lui-même. Il est aliéné à soi et ne peut se retrouver que dans la rencontre de Dieu. Ainsi arrivera-t-il à soi, à son véritable moi, à sa véritable identité. Petit b, la rencontre qui a changé sa vie. L'être humain, souligne ensuite Augustin, dans la Cité de Dieu, est social par nature, mais antisocial par vice. Par nature, nous tendons à être en rapport avec les autres, mais à cause du vice, à cause du péché originel, eh bien parfois nous servons trop notre égoïsme, et cela, et nous créons le mal. Mais l'homme est aussi sauvé par le Christ, unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Et voie universelle de la liberté et du salut. Comme unique médiateur du salut, le Christ est la tête de l'Église et lui est mystiquement uni au point qu'Augustin peut affirmer « Nous sommes devenus le Christ, car il est notre chef, nous sommes ses membres, nous composons, lui et nous, son humanité tout entière. » C'est d'une modernité époustouflante. Eh bien, ça a 1700 ans. Nous sommes devenus le Christ. Et nous chantons « Nous sommes le corps du Christ ». On n'a pas attendu de pouvoir composer des cantiques modernes. On ne fait que chanter du Saint-Augustin, en fait. Et en fait, Saint-Augustin n'a fait que reprendre Saint-Paul. Hein. Quand Saint-Paul parle de l'Église comme les membres d'un seul et même corps. Peuple de Dieu et demeure de Dieu, l'Église est donc étroitement liée au concept du corps du Christ dans la vision augustinienne fondée sur la relecture christologique de l'Ancien Testament et sur la vie sacramentelle centrée sur l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur nous donne son corps et nous transforme en son corps. Il est fondamental alors que l'Église, peuple de Dieu, dans un sens christologique et non pas dans un sens sociologique, soit véritablement insérée dans le Christ, lequel affirme Augustin dans une page magnifique. Le but de notre existence, c'est le Christ Jésus. Le prêtre n'est qu'un instrument. Il doit présenter au peuple de Dieu le Christ Jésus. Nous marchons tous derrière un seul et même maître, le Christ Jésus. Le Christ prie pour nous, prie en nous. Et reçoit nos prières. Il prie pour nous comme notre prêtre. Il prie en nous comme notre chef. Il reçoit nos prières comme notre Dieu. Reconnaissons donc que simultanément nous parlons en lui et qu'il parle en nous. Le fameux dialogue intérieur que nous venons d'évoquer. C'est encore le Christ en personne, Dieu véritable, à qui est adressée une des prières les plus belles et les plus célèbres des confessions. Je t'ai aimé très tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je t'ai aimé très tard. Et quoi? Tu étais au-dedans, moi au-dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je te cherchais. Et je poursuivais de ma laideur la beauté de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Retenu loin de toi par tout ce qui, sans toi, ne serait que néant. Tu m'appelais, et voilà que ton cri force la surdité de mon oreille. Ta splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement. Ton parfum, je le respire. Et voilà que je soupire pour toi. Je t'ai goûté et me voilà dévoré de faim et de soif. Tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix. Waouh! Ah, quand Quand quelqu'un d'intelligent, de brillant a rendu à travers un langage intelligible et poétique la puissance de son esprit, ah oui, c'est pas mal. Mais ça, c'est juste un extrait des Confessions, et c'est ça sur 600 pages. Eh bien, si votre vie spirituelle est un peu sèche, je vous recommande vivement d'y mettre un coup d'arrosoir, un coup des Confessions, qui vont vous montrer à quel point il n'est pas honteux de tomber et à quel point Dieu ne fait que nous attendre pour nous relever. C'est ce que nous dit saint Augustin à travers ses Confessions. On en reparlera tout à l'heure. Justement, les œuvres d'Augustin, grand 3. Quelques-uns des écrits augustiniens sont d'une importance capitale, non seulement pour l'histoire du christianisme, mais pour la formation de la culture occidentale. L'exemple le plus clair en est les Confessions, sans nul doute, l'un des livres de l'Antiquité chrétienne le plus lu encore aujourd'hui. En effet, comme plusieurs autres pères de l'Église, mais dans une mesure incomparablement plus grande, l'évêque d'Hippone a exercé une influence étendue et persistante, comme on le constate par la quantité innombrable des transcriptions manuscrites de ses œuvres. Lui-même les a passées en revue quelques années avant de mourir, dans son livre « Les Rétractations ». Car, je vous l'ai dit pendant cette fameuse retraite de 4 ans, on va dire, avant de mourir, il prend le temps de relire toutes ses œuvres et il va écrire un livre qui s'appelle « Les Révisions ». Il reprend toutes ses œuvres et il va redire dans un seul et même bouquin « En fait, quand je vous parlais de la virginité, je voulais vous mener à ce but-là. Quand je voulais vous parler que j'ai écrit contre les manichéens, je voulais vous mener à ce but-là. Ah, le livre de la Trinité, je ne l'ai pas terminé, donc je me permets de le terminer maintenant. Vous trouverez les pages manquantes ici. Les Confessions, ah ben je vais vous dire quel était le but des Confessions. Vous prenez les Confessions, il lit « Les 13 livres de mes Confessions louent le Dieu juste et bon pour mes bonnes comme pour mes mauvaises actions, et ils excitent vers lui l'esprit et le cœur de l'homme. Tout au moins en ce qui me concerne, elles ont eu sur moi cette action pendant que je les écrivais, et ils l'ont encore jusque lorsque je les lis. » Il est conscient qu'il écrit quelque chose d'extraordinaire. Mais ça lui procure beaucoup de plaisir de l'écrire, et il sait que ses contemporains lui ont demandé beaucoup de copies. Ben, il l'écrit dans ses révisions en disant « Je sais que ça a procuré beaucoup de bien, et je vais vous dire, et il corrige les parties qu'il manque, où il a laissé des sous-entendus, et bien il corrige. » Il faut quand même être assez humble pour pouvoir prendre le temps de la fin de sa vie pour pouvoir rédiger un bouquin consacré à la relecture totale de ses œuvres et à la correction de ses œuvres, ou à la fin des œuvres inabouties. En plus des rétractations de ses révisions, il écrit un index que nous donne son biographe Posidius, qui nous permet de retrouver systématiquement toutes ses œuvres. Mais nous savons aussi que pendant cette période, il a écrit évidemment une foule d'écrits. Nous sont parvenus jusqu'à nous 1030 livres. 1030 livres. Donc vous ne savez pas quoi faire de vos hivers rigoureux à Puermel. Vous avez au moins un ou deux livres d'Augustin à lire sur les 1030. Parce qu'en plus des 1030, on a aussi 300 lettres qui sont parvenus jusqu'à nous, ainsi que 600 homélies. Tout ça, ce n'est que la face, encore une fois, immergée de l'iceberg, parce qu'on en a la trace, on sait qu'en gros, il y avait 3 à 4000 homélies écrites par Augustin. Il écrivait constamment, ou plus exactement, il parlait constamment et écrivait pour lui des tonnes de scribes autour de lui, qui prenait toutes les notes en sténo. La sténographie existait, et il était plus facile le soir de se reposer, de reprendre les notes et d'écrire tout. Vous avez sûrement entendu que Napoléon avait plusieurs secrétaires, mais ce n'était pas réservé qu'à Napoléon. Augustin aussi, comme il était un personnage éminent de son époque, avait des scribes partout et des disciples qui étaient prêts à prendre ou à capter le moindre de ses phrases. Il écrivit et publia bien des œuvres, écrit Posidius, donna bien des prédications dans les églises, mis ensuite par écrit et corrigé, pour réfuter divers hérétiques et pour interpréter les saintes écritures en vue de l'édification des pieux fils de l'église. Ses œuvres, souligne l'évêque Ami, sont si nombreuses qu'à grande peine un savant pourrait-il les lire et commencer à les connaître. Petit a, les confessions. Les confessions, vous n'avez aucune difficulté à les trouver dans n'importe quelle librairie aujourd'hui. Il en existe des collections de poche de partout. Parmi la production littéraire d'Augustin, c'est-à-dire parmi les plus de 1000 publications, on peut distinguer des œuvres philosophiques, apologétiques, doctrinales, morales, monastiques, exégétiques, anti-hérétiques, sans parler des lettres et des homélies. Ressortent, n'empêche, de toutes ces œuvres, quelques œuvres exceptionnelles sur lesquelles je m'arrête avec vous maintenant. Le premier, les confessions. Les confessions sont écrites en 13 livres, entre 397 et 400. Il s'agit de la première autobiographie de l'Antiquité. C'est la première fois qu'on écrit un manuscrit, un roman autobiographique. Et cette forme d'autobiographie, elle prend justement la forme d'un dialogue avec Dieu, entre Augustin et Dieu, dans les confessions. Ce genre littéraire est le reflet exact de la vie de saint Augustin. Elle n'était pas renfermée sur soi, ni dispersée en de multiples choses, mais substantiellement vécue comme un dialogue avec Dieu, et par là, une vie avec autrui. Déjà, le titre lui-même de confession marque la spécificité de cette autobiographie. En latin chrétien, le mot confessiones, développé à partir de la tradition psalmique, a deux significations qui se superposent. Il indique, en premier lieu, l'aveu de ses propres faiblesses, de sa misère et de ses péchés, mais en même temps, il signifie la louange à Dieu, la reconnaissance à Dieu. Le fait de voir sa propre misère à la lumière de Dieu devient louange et action de grâce, parce que Dieu nous aime et nous accueille, nous transforme et nous élève vers lui. À propos de ces confessions, nous savons, nous venons de le lire, que Augustin écrit dans ses révisions, qu'il était lui-même conscient du grand succès qu'elles avaient déjà rencontré. Et grâce aux confessions, il nous est possible de suivre pas à pas le chemin intérieur de cet homme extraordinaire et passionné de Dieu. De 413 à 426, il écrit La Cité de Dieu, composée de 22 livres. Œuvre imposante qui allait être décisive pour le développement de la pensée politique occidentale et pour toute la théologie chrétienne de l'histoire. L'occasion lui en fut donnée par le sac de Rome par les Goths en 410. Augustin meurt en 430. Il sait en 410 que les Goths, et notamment Alaric, a pris la ville de Rome. Imaginez, lui qui est un amoureux de l'Antiquité, qui est pétri par sa culture, qui voit s'écrouler sa propre civilisation sous ses yeux. Et il apprend que Rome est tombée. Rome, caput mundi, capitale du monde. Parmi les païens encore présents et même parmi les chrétiens, nombreux étaient ceux qui se disaient alors « Rome est tombée, désormais le Dieu chrétien et les apôtres ne peuvent plus protéger la ville ». De Rome, les colonnes que sont Pierre et Paul, dont on a le trophée des martyrs. Comment cette ville a pu tomber aux mains des païens? Pendant la présence des divinités païennes, Rome était caput mundi, la capitale du monde, et elle est restée en tant que païenne la capitale très longtemps, sur une multitude de siècles, sur 800, 900, 900 ans. Comment d'un seul coup, alors que ça fait même pas 120 ans que Rome est devenu, et que son empire est devenu totalement chrétien, le monde s'effondre. Ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Et voilà que désormais, avec le Dieu chrétien, cette grande cité ne semblait pas en sûreté. C'est donc que le Dieu des chrétiens n'était pas protecteur, ne pouvait être le Dieu à qui se fier. C'est à cette objection qui atteignait profondément le cœur des chrétiens, imaginez la déconfiture totale. Les gens sont chrétiens, tout le monde se réjouit qu'enfin le monde païen, on y a tourné le dos, et voici que tout s'écroule. Imaginez la posture de l'évêque, tous les gens qui viennent se plaindre à lui en permanence en disant « Mais que va-t-il advenir? Dieu nous a abandonnés. Que va-t-il advenir? Dieu nous a abandonnés. » On a l'impression d'entendre les chrétiens en temps de pandémie. Et c'est très intéressant de le relire justement maintenant à cause de l'actualité de ce que nous vivons. Et Augustin se sert de ce livre pour répondre aux gens. C'est à cette objection qui atteignait profondément le cœur des chrétiens que répondait saint Augustin par cette œuvre grandiose qu'est la cité de Dieu, grandiose qu'est la cité de Dieu, éclairant ce que nous devons attendre de Dieu ou non, quelle est la relation entre la sphère politique et la sphère de la foi de l'Église. Aujourd'hui encore, ce livre est une référence pour une bonne définition de la véritable laïcité, nous l'avons vu, et de la compétence de l'Église, la grande et vraie espérance que nous donne la foi. Ce grand livre est une présentation de l'histoire de l'humanité gouvernée par la divine providence, mais actuellement partagée entre deux amours. C'en est là la visée fondamentale, son interprétation de l'histoire comme un combat entre deux amours. L'amour de soi jusqu'à l'indifférence à l'égard de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'à l'indifférence à l'égard de soi-même. L'amour de soi jusqu'à l'indifférence à l'égard de Dieu. L'amour de Dieu jusqu'à l'indifférence à l'égard de soi-même. Une cité, celle du ciel, où je pense d'abord à Dieu, l'amour de Dieu jusqu'à l'indifférence de moi-même, à l'amour de soi, à l'indifférence de soi. Je meurs à mon propre égoïsme à la fin de m'ouvrir aux autres et à l'autre avec un A majuscule, Dieu, la cité céleste. La cité terrestre, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Je pense tellement à moi, à mon ego, à mon égoïsme, qu'évidemment, Dieu ne fait pas partie de ma vie, puisque les autres n'en font pas partie. La cité terrestre. Et voici le combat entre ces deux cités qui est décrit dans le monde de la cité de Dieu, dans le livre de saint Augustin. Il cherche à comprendre le mystère insondable. Pardon. Je dis combat entre les deux cités, jusqu'à la pleine liberté de soi. Pour les autres dans la lumière de Dieu. C'est par conséquent le plus grand livre de saint Augustin peut-être et d'une importance permanente. Il écrit encore une autre œuvre majeure, un De Trinitate, qui parle évidemment de sa pensée théologique et notamment de comment vont s'articuler la vie même intra-trinitaire. Qu'est-ce que c'est que cette relation d'amour entre Dieu le Père entre Dieu Père, entre Jésus le Fils et le Saint-Esprit? Et il va tenter de mettre un langage philosophique à travers le vocabulaire qu'il avait saisi lui-même d'Hilaire de Poitiers ou d'Athanase avant lui, d'en faire un résumé moderne et de raconter à l'intérieur même de la vie trinitaire comment se passe cette communion d'amour à laquelle nous sommes appelés à vivre chaque jour. Et il écrit ce De Trinitate, de la Trinité, entre 399 et 412. À la fin de sa vie, dans ses révisions, il y revient en disant « Je me suis trompé pour une partie qui n'était pas claire, eh bien, je me reprends et je termine l'ouvrage. » Donc ça veut dire qu'il n'a pas que des sujets simples. Même à la fin de sa vie, il a attaqué encore des choses ultra complexes. Petit B, une poésie simple contre les donatistes. Malgré toute son humilité, Augustin fut certainement conscient de sa propre stature intellectuelle, mais pour lui, ce qui était plus important que la réalisation de grandes œuvres d'une haute inspiration théologique, c'était de porter le message chrétien aux petits. Voilà la signature du vrai pasteur, du vrai pédagogue qui cherche à tout prix la vulgarisation. Quelqu'un qui est un génie d'une puissance intellectuelle remarquable, capable de conceptualiser les plus complexes traité théologique, mais qui est d'abord capable de le faire passer à n'importe qui. Telle était la plus profonde intention qui le guida toute sa vie et qui apparaît dans une lettre écrite à son collègue Évode, où il lui fait part de sa décision de suspendre pour un moment la dictée des livres de la Trinité. Il commence à écrire le De Trinitate et il s'arrête et il écrit à son collègue évêque « Parce que ces livres sont trop fatigants et que je pense qu'ils ne peuvent pas être compris que par trop peu de monde, c'est pour cela qu'il est plus urgent pour moi d'avoir des textes qui, espérons-le, seront utiles à beaucoup. » Waouh ! Il était donc plus utile pour lui de communiquer la foi de façon compréhensible à tous que d'écrire de grandes œuvres théologiques. La responsabilité ressentie avec acuité de la propagation du message chrétien est ainsi à l'origine décrit tel que le De Catechizandis Rudibus. C'est un livre en fait qui dit simplement la première catéchèse Qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux autres? Il a fait des œuvres de grande vulgarisation. C'est un des premiers catéchismes. Il écrit le premier catéchisme. Les rudiments, en fait, de ce qu'il faut croire. Mais en Afrique, il dut supporter pendant très longtemps le plus vaste problème qui était celui des donatistes. Les donatistes étaient le plus grand problème de l'Afrique de Saint-Augustin, tenant d'un schisme expressément africain. Petit éclairage sur le donatisme. Le donatisme est une doctrine chrétienne jugée a posteriori schismatique puis hérétique par l'Église, doctrine qui prit son essor dans les diocèses d'Afrique romaine au IVe et Ve siècle. Elle tire son nom de Dona, un évêque de Numidie. Le principal point de désaccord des donatistes avec l'Église, indivise, concernait le refus de validité des sacrements délivrés par les évêques qui avaient failli lors de la persécution de Dioclétien. Cette position fut condamnée lors du Concile de Rome en 313. Qu'est-ce que ça veut dire? En 313 éclate en Afrique, comme partout dans tout l'Empire, une énorme persécution. Comportements divers et variés par rapport à cette persécution. Premier comportement, j'accepte de mourir martyr. Le témoignage suprême de mon amour, droit dans mes bottes par rapport à ma foi catholique. Deuxième, je ne suis pas mort martyr, mais par contre j'ai confessé ma foi dans ma chair, j'ai souffert et j'ai professé ma foi au Christ Jésus. Les élus. Et puis malheureusement, comme partout, ben, les collabos, les autres, ceux qui n'ont pas eu le courage de leur foi, mais qui sont quand même là, qui sont encore là. Eh bien, à l'époque de Dioclétien, en Afrique, ça a fait grand bruit. Parce que l'Église s'est divisée en deux parties. Ceux qui ont été martyrisés et les évêques qui ont tenu bon, qui ont été martyrisés ou d'autres qui ont survécu, qu'on va appeler ben, ceux qui ont tenu bon, et les autres qu'on va appeler les lapsis, ceux qui sont tombés et qui en fait sont considérés comme ben, des parias. Ils ont juré. Comment faire pour réconcilier cette Église? Est-ce qu'on va finir par réintégrer en fait au fur et à mesure des générations les gens qui appartenaient à tel ou tel évêque qui lui avait juré? Il y a une grande division dans l'Église de son temps, Augustin. En plus d'un contexte que vous connaissez maintenant qui est particulièrement compliqué, il y a cette crise au sein même de l'Église d'Afrique. Et Augustin va tout faire pendant sa vie pour essayer d'apaiser les choses. Grand 4, et on terminera par là. L'expérience intime d'Augustin. Aujourd'hui encore, il est possible de retracer le parcours de saint Augustin, en particulier grâce au livre des Confessions écrit à la gloire de Dieu et à l'origine de l'une des formes littéraires les plus spécifiques de l'Occident, l'autobiographie, c'est-à-dire l'expression personnelle de la conscience de soi. En effet, quiconque prend connaissance de ce livre extraordinaire et fascinant, très lu de nos jours encore, se rend facilement compte que la conversion d'Augustin ne s'est ni produite ni complétée de but en blanc, mais pourrait plutôt être définie exactement comme un véritable cheminement qui constitue encore un modèle pour chacun de nous. Certes, cet itinéraire trouva son point culminant dans la conversion puis dans le baptême, mais cette veillée pascale de l'année 387, au cours de laquelle Ambroise, évêque de Milan, baptisa le rhéteur africain, n'en fut pas le point final. Loin de là, nous l'avons vu, ce n'était même que le milieu, le chemin de conversion d'Augustin, en effet, se poursuivit dans l'humilité jusqu'à la fin de sa vie, tant et si bien que l'on peut dire en toute vérité que ces trois étapes qui le constituent et que l'on peut aisément distinguer forment une unique et grande conversion. Petit a, tolle legge, prends, lis. Saint Augustin fut un chercheur passionné de la vérité. Nous l'avons vu au début de sa vie, nous l'avons vu qu'il n'a jamais quitté ce désir ardent. Il le fut dès le début, puis tout au long de sa vie. La première étape de son chemin de conversion se réalisa simplement par une approche progressive du christianisme. Dans les faits, il avait reçu une éducation chrétienne de sa mère Monique, à qui il resta toujours très lié. Et bien qu'il passât ses années de jeunesse dans une vie déréglée, on parle toujours, il a fait les 400 coups. Et il faut peut-être diminuer le nombre de ses coups. Il faut modérer. Parle quand même d'un étudiant qui a recherché une vie ascétique. Elle est peut-être déréglée, pas tout à fait ajustée, n'est pas si catastrophique que ça. Il ressentit toujours une attraction profonde pour le Christ, ayant absorbé l'amour du nom du Seigneur en même temps que le lait maternel, comme il le souligne lui-même dans les Confessions. Même si la philosophie par elle-même, surtout celle inspirée de Platon, avait contribué à le rapprocher ultérieurement du Christ, en lui rendant manifeste l'existence du logos, la raison créatrice, si les livres des philosophes lui indiquaient qu'existe d'abord la raison d'où vient le monde entier, il ne lui disait pas comment atteindre ce logos semblant si lointain. Seule la lecture des épîtres de saint Paul dans la foi de l'Église catholique allait lui révéler pleinement la vérité. Augustin a synthétisé cette expérience dans une des pages les plus célèbres des Confessions, où il raconte comment, dans le tourment de ses réflexions, alors qu'il s'était retiré en un jardin, il entendit subitement une voix d'enfant qui répétait une ritournelle jamais entendue auparavant. Tolle legge, prends, lis, prends, lis. Il se souvint alors de la conversion de saint Antoine du désert, le père du monachisme, et se hâta de revenir au livre de saint Paul, les écrits de saint Paul, qu'il avait entre ses mains. Il l'ouvre au hasard, quelques instants plus tôt, et son regard tombe sur le passage de l'épître aux Romains, Romains 13, 13-14. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il avait compris que cette parole lui était à ce moment-là adressée personnellement, qu'elle venait de Dieu par l'apôtre et lui indiquait quoi faire alors. C'est alors qu'il sentit les ténèbres du doute se dissiper et finalement se trouva libre de se donner entièrement au Christ. Tu avais converti à toi mon être, dit-il dans les Confessions. Ce fut la première et décisive conversion. Petit B, ordonné prêtre malgré lui. Le rhéteur africain arriva à cette étape fondamentale de son long chemin grâce à sa passion pour l'homme et pour la vérité. Passion qui le portait à chercher Dieu, grand et inaccessible. La foi dans le Christ allait lui faire comprendre que le Dieu apparemment si lointain ne l'était pas en réalité. En effet, il s'est fait proche de nous et devenu l'un de nous. Dans ce sens, la foi au Christ mena à son accomplissement la longue recherche d'Augustin sur le chemin de la vérité. Finalement, seul un Dieu qui s'est rendu tangible, l'un de nous, était un Dieu que l'on peut prier, pour qui et avec qui il est possible de vivre. Et c'est là une voie à parcourir avec courage et en même temps avec humilité dans l'ouverture à la purification permanente dont chacun de nous a toujours besoin. Mais comme nous l'avons dit en cette vigile pascale de l'an 387, le chemin d'Augustin n'était pas terminé. Retourné en Afrique, ayant fondé un petit monastère, il s'y retira avec quelques amis pour s'adonner à la vie contemplative et studieuse. Tel était le rêve de sa vie. Il était désormais appelé à vivre totalement pour la vérité, dans l'amitié, avec le Christ qui est la vérité. Petit c, une humilité profonde et intellectuelle. Mais sur le chemin d'Augustin, il y a une ultime étape, une troisième conversion, celle qui l'amena chaque jour de sa vie à demander pardon à Dieu. Il avait tout d'abord pensé qu'une fois baptisé, une fois en vie de communion avec le Christ par les sacrements, par la célébration de l'Eucharistie, il aurait atteint la vie que propose le sermon sur la montagne, à la perfection donnée au baptême et renouvelée dans l'Eucharistie. Il se dit, ben, une fois que je suis converti, je suis arrivé au sommet, terminé. Et en fait, dans la dernière partie de sa vie, il comprit que ce qu'il avait dit dans ses premières prédications sur le sermon sur la montagne, c'est-à-dire que désormais nous autres, en tant que chrétiens, nous vivons en permanence cet idéal, eh bien, était erroné. Seul le Christ, en personne, réalise vraiment et complètement le sermon sur la montagne. Il nous faut toujours être lavés par le Christ, il nous faut qu'il nous lave les pieds, que nous soyons renouvelés par lui. Nous avons toujours besoin d'une permanente conversion, jusqu'à la fin. Nous avons besoin de cette humilité qui reconnaît que nous sommes des pécheurs en chemin, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne la main définitivement et nous introduise dans la vie éternelle. C'est dans cette ultime disposition vécue jour après jour qu'est mort Augustin. cette disposition d'humilité profonde devant l'unique Seigneur Jésus l'introduisit à l'expérience d'une humilité qui était aussi une humilité intellectuelle. Augustin, en effet, qui est une des plus grandes figures dans l'histoire de la pensée, voulut dans les dernières années de sa vie soumettre à un examen critique lucide de ses nombreuses œuvres. Ce fut l'origine de ses fameuses révisions, qui de cette façon insèrent sa pensée théologique, réellement considérable, dans la foi humble et sainte de celle qui appelle simplement le nom de catholique, c'est-à-dire l'Église. « Je compris, écrit-il, à ce propos dans ce livre très particulier, qu'un seul est véritablement parfait, que les paroles du serment sur la montagne se réalisent en un seul, en Jésus-Christ même. Au contraire, toute l'Église, nous tous, y compris les apôtres, devons prier quotidiennement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Converti au Christ, qui est amour et vérité, Augustin le suivit toute sa vie, et il est devenu un exemple pour tout être humain, pour nous tous, dans la recherche de Dieu. Je termine ici mon propos par une prière tirée de son De Trinitate sur la Trinité. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru. Et j'ai lutté, et j'ai souffert, mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir. Accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, qu'avec passion sans cesse je te cherche et je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Devant toi ma solidité, garde-la. Devant toi ma fragilité, guéris-la. Devant toi tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. De là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier, accorde-moi de te comprendre, mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t'aimer. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, vous qui avez survécu à cette conférence? Je vous ai mis dans votre petite bibliographie le plan que nous avons suivi, pratiquement l'intégralité de mon propos, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Je n'ai fait que reformuler par mes propres mots la catéchèse que le pape Benoît XVI a fait en catéchèse publique sur la place Saint-Pierre, où il a évoqué la figure de Saint-Augustin. J'avais évoqué avec vous le fait que pour commencer une étude des pères de l'Église, on peut prendre par exemple le livre de Benoît XVI qui a fait une synthèse, en fait, une vision synthétique par des petites fiches qui sont ses catéchèses du mercredi, la vie de chaque père de l'Église. Il a présenté à de multiples reprises Augustin. Je n'ai fait que reformuler avec mes propres mots ce que le pape a dit. Donc, toutes les citations, si vous les cherchez, vous les trouvez sur Internet dans les catéchèses où Benoît XVI s'adresse en parlant d'Augustin. Vous avez aussi, à la fin de ce petit résumé de ce plan, un indice biographique, simplement ce livre de Peter Brown, La vie de Saint-Augustin, pour les gens qui veulent se plonger plus sur la vie de Saint-Augustin, sachant que la meilleure biographie qui ne soit pas écrite non par lui, c'est d'abord la sienne, à travers les confessions. Il raconte sa vie. Penchez-vous sur les confessions, penchez-vous sur la cité de Dieu si vous avez un peu de temps à perdre ou à retrouver un souffle spirituel. Et si vous n'arrivez pas à y rentrer, vous pouvez toujours y parvenir par ce film qui est sorti, Saint-Augustin, et produit, distribué par Sage. Non seulement vous faites une bonne action, mais en plus vous pouvez rentrer dans mieux comprendre le contexte perturbé de cette époque. C'est une façon de rentrer bien avec Augustin pour devenir davantage un ami de Jésus. Vous avez des questions? Je suis tout ouï, maintenant qu'il ne pleut plus.
Mon père, on oppose souvent, je crois, dans la théologie occidentale, l'œuvre de Saint-Augustin et de Saint-Thomas-d'Aquin en disant qu'ils ont pondéré différemment finalement le rôle de la grâce Et voilà, vous pouvez nous donner un petit éclairage synthétique.
Bon, il faut prendre humblement le contexte. Alors, entre saint Augustin et saint Thomas, le premier point qui est d'ordre empirique, Augustin est au 4e siècle, Thomas est au 12e, il y en a un qui a copié sur l'autre. Ça, c'est obligé. Il y en a un qui tire son expérience de l'autre. Saint Augustin a tiré son expérience du Christ Jésus, de l'être de saint Paul et de tous les pères qui le précédaient. Thomas a fait une autre synthèse qui était celle de son temps et de son époque, mais en tirant déjà le fruit des limites de la pensée même de saint Augustin. Sur la grâce, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais elle est d'abord la vision et la perception d'abord d'une époque. Avant toute chose, avant même de placer un véritable langage théologique, il est d'abord le reflet d'une époque. Saint Augustin donnera comme filiation spirituelle le meilleur et le pire, parce que Luther est d'abord un frère de Saint Augustin. Il est parti de cette réflexion de vie monastique d'Augustin, avec comme règle celle de Saint Augustin. Cela veut dire aussi que cet attachement à la parole et notamment à la vie de la grâce, est-ce que la grâce suffit ou la foi va suffire, est un enjeu très important. Je ne réponds pas à votre question parce que je n'ai pas la réponse du côté de saint Thomas, mais il faudrait comparer le traité sur la grâce de saint Augustin, mais qui en tout cas ne suffit pas pour Augustin, ça c'est sûr. Parce que par tout son être, il prouve que la foi et la raison sont d'abord le premier moteur. C'est la devise de sa vie. Et pourtant, dans des gens qui n'auront peut-être pas assez lu saint Augustin, on va ne retenir que l'expression de la grâce, comme seule agissante en Augustin. Ben, c'est d'abord un vrai contre-témoignage sur l'intellect ou sur tout ce que Augustin a écrit. En fait, c'est comme si on retiendrait de saint Augustin quelqu'un qui n'est que spirituel, parce que ça nous a fait chaud au cœur de lire une fois, de chanter une fois un refrain de Thésée qui a repris en fait un cantique de saint Augustin, et en fait tout est grâce. Et en fait, on a absolument vidé de sa coquille le contenu en fait du message de la profondeur de saint Augustin. Donc moi, je n'irai jamais à les contredire. Pour les contredire, il faut déjà savoir exactement qui pense quoi, et par exemple déjà analyser la pensée d'Augustin. Parce qu'Augustin, il a des idées qui lui sont propres et nouvelles, mais il a aussi repris les idées de ses prédécesseurs. Il faut d'abord distinguer lesquelles sont personnelles et lesquelles sont déjà copiées. Et chez Thomas, il faut faire le même travail. Quelle part est un langage nouveau de la grâce ou sur la grâce, et quelle part il reprend déjà à Augustin ou à ses prédécesseurs ? Pour pouvoir répondre correctement à la question, avant de poser toutes les conséquences là-dessus. Parce que nous avons comme conséquence de ce dialogue entre la grâce, notamment, que les conséquences postérieures d'auteurs contemporains, qui, eux, plaquent là-dessus leurs propres idées. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris de Thomas et qu'est-ce qu'ils ont pris d'Augustin ? Donc, je ne répondrai pas à cette question de façon précise. Parce que pour ça, il faudrait d'abord me pencher plus intérieurement sur la question des écrits sur la grâce de saint Augustin et des écrits sur la grâce de Thomas. Mais je sais qu'il y a le risque de plaquer notre regard actuel est très élevé. D'autres questions? On a tous envie de lire des choses, ou en tout cas de... Alors, surtout quand on a un récit autobiographique, on a l'impression qu'il nous... Ben forcément, il est destiné au lecteur. Donc on a l'impression qu'il nous parle. Et c'est d'abord Augustin qui s'exprime dans sa relation à Dieu. Ben, des fois, il faut laisser parler son cœur, et puis des fois, il faut aussi prendre du recul et se dire c'est un livre, ou c'est à moi. L'expérience, elle est à la fois rapprochement et détachement. Et c'est comme ça que vous pouvez le lire aussi. Parfois, c'est dur à encaisser, hein. Vous le laissez sur votre table de chevet en disant, ce passage-là, on en reparlera quand je serai moi apaisé dans ma vie, quand j'irai me confesser. Puis après, des fois, c'est lumineux. Et vous finissez le bouquin. Et vous en entamez un deuxième. C'est une expérience spirituelle. Surtout les confessions. Plus que toutes les autres traités théologiques ou même aussi... dans cette édition de la bibliothèque augustinienne, vous avez toujours le texte latin et ensuite la traduction française. Eh bien, il y a tous les thèmes que Augustin aborde. L'utilité du jeûne. Vous savez pas ce que c'est, vous savez pas si c'est utile le jeûne, mais il a écrit un traité là-dessus. Le culte qu'on doit rendre aux morts. Il a écrit un traité là-dessus. La mendicité sur le partage et la charité. Sur l'adultère. Il a écrit un traité sur l'adultère. Et il a répondu à beaucoup de questions. Ayez la curiosité de vous plonger dans saint Augustin. Franchement, vous ne serez pas déçus. C'est un ami qui permet vraiment de cheminer. Un ami sûr, parce qu'il passe vraiment par les montagnes russes spirituelles que nous connaissons nous aussi. Donc, il est comme nous. Si vous n'avez pas de questions, je vous libère, puisqu'il y a une accalmie et que vous allez pouvoir sortir au sec.